Manuscrit 81. Le reproche de Dieu à Laodicée. Ceux qui ont publié la brochure Loud Cry, le grand cri, ne m'ont pas consulté. Ils ont beaucoup cité mes écrits et les ont interprétés à leur manière. Ils prétendent avoir un message spécial de Dieu pour déclarer que l'Église adventiste du septième jour est Babylone, pour proclamer sa chute, pour appeler son peuple à en sortir, et ils essayent de tourner les témoignages de manière à ce qu'ils justifient leur théorie. Ces imprimés induisent en erreur, amplifient les préjugés déjà existants et tendent à compliquer l'accès à mes écrits pour présenter le message d'avertissement que Dieu a donné au monde et dont le caractère est complètement différent des idées présentées dans ces brochures. Je me suis réveillé à 2h30 du matin. Je ne pouvais plus dormir car j'étais abattu par ce souci. L'histoire des enfants d'Israël m'est venue à l'esprit, et différentes situations m'ont été montrées avec une clarté telle que je ne pouvais garder le silence. J'ai écrit 23 pages entre 3h et 12h30. Mon esprit a été agité en moi. J'ai eu le cœur lourd pour le peuple de Dieu, non seulement à cause de cette publication, mais à cause de toutes ces choses qui parviendront au peuple comme des messages venant de Dieu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. Plusieurs de ces brochures sont arrivées au bureau de poste avec inspection aux receveurs de la poste de les remettre aux adventistes. Les habitants de Wellington sont remplis de préjugés. La diffusion des mensonges de Dudley M. Canwright a créé des préjugés qui font qu'il est presque impossible de les approcher, car, ce faisant, nous éveillons des soupçons selon lesquels nous travaillons clandestinement. Ces brochures et les télégraphes distribués par le frère C. sont de caractère à confirmer ces soupçons. Toutes ces choses font que les gens nous ferment leurs portes et le chemin en est couvert. Ces hommes qui pensent rendre un service à Dieu travaillent du côté de l'ennemi et non du côté de Dieu. Hier, j'ai envoyé 23 pages manuscrites à Melbourne afin qu'on les conditionne pour être diffusées parmi notre peuple. Avant cela, j'avais envoyé plusieurs pages traitant du même sujet. Elles ne seront pas prêtes pour être envoyées dans le courrier de ce mois-ci. Sous l'inspiration des instruments de Satan, un peu de levain de fausse doctrine peut faire beaucoup de mal à ceux qui ne sont pas enracinés et ancrés dans la vérité présente. Personne n'est maintenant en sécurité, à moins d'être accroché au rocher éternel. Nous avons toutes les raisons de nous confier en Dieu et de lui être reconnaissants. Le Seigneur Jésus les connaît comme les siens. Il est mort pour sauver un monde perdu. Et il rassemble en son sein une armée qui servira sous sa bannière. Et il fera paraître devant lui une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, verset 27. Jésus parle à Laodicée. J'ai compris que ces hommes, S et C, se trouvaient au congrès de la conférence générale. N'ont-ils pas pu y discerner les révélations du Saint-Esprit ? Ne pouvait-il pas voir que Dieu ouvrait les écluses du ciel et déversait une bénédiction? Pourquoi en a-t-il été ainsi? Des témoignages ont été faits, corrigeant et conseillant l'Église, et beaucoup avaient mis le message à l'Église de Laodicée en pratique, confessaient leurs péchés et se repentaient, l'âme contrite. Ils entendaient la voix de Jésus, le grand marchand du ciel. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Ces frères qui affirmaient avoir cette merveilleuse lumière devraient faire exactement le même travail de repentance et de confession afin de balayer les déchets de la porte de leur propre cœur et ouvrir cette porte pour recevoir l'invité céleste. S'ils s'étaient placés sur le sentier de la lumière, ils auraient reçu les plus précieuses bénédictions du ciel. Ils auraient vu qu'en se manifestant à son peuple, le Seigneur a été vraiment miséricordieux et que le soleil de justice s'est levé sur eux. Il s'agit d'un précieux commerce activement mené. L'Église de Laodicée obéissait au conseil du Seigneur, et tous ceux qui avaient conscience de leur pauvreté achetaient de l'or, la foi et l'amour, des vêtements blancs, la justice du Christ, et du collyre, le véritable discernement spirituel.
Pourquoi ces frères ne se sont-ils pas conformés et ne se sont-ils pas placés sur le sentier de la lumière? Ils étaient frappés de pauvreté et ne le savaient pas. Ils n'œuvraient pas selon les voies du Christ. Ils n'étaient ni adoucis, ni tempérés par son Saint-Esprit. Ils étaient tellement aveugles qu'ils ne pouvaient discerner les intenses rayons de lumière qui provenaient du trône de Dieu sur son peuple. Ils n'ont pas entendu la voix du bon berger, mais écoutaient celle d'un étranger. Quand je considère les infirmités de ces frères égarés, j'éprouve un chagrin profond, car ils n'ont pas supplié le Seigneur. Bénis-moi, ô Dieu, bénis-moi. Je vois maintenant mon erreur. Tu as accordé à ton peuple les plus riches vérités qui n'aient jamais été confiées à des mortels. Ce peuple n'est pas Babylone, puisque tu lui as donné la justice, la paix et ta joie afin que sa joie soit complète. Mais pourquoi n'ont-ils pas ouvert la porte de leur cœur à Jésus ? Pourquoi ne se sont-ils pas débarrassés sur le champ de tout ce qui faisait éclipse aux brillants rayons du soleil de justice pour qu'il brille sur le monde ? Alors que les bienfaits de Dieu pénétraient partout, tandis que sa présence consacrait et sanctifiait des âmes pour lui-même, pourquoi n'ont-ils pas placé la leur sur le sentier de la lumière ? C'était parce que Satan avait jeté son ombre diabolique en travers de leur chemin pour entraver tout rayon de lumière. L'œuvre de Satan. Comment ont-ils pu revenir de ce congrès où la puissance de Dieu avait été révélée de manière aussi remarquable et proclamer que le grand cri était que le peuple qui observait les commandements était Babylone ? Satan disait cette même chose au Christ quand Josué se tenait debout devant l'ange. Satan déclarait que ses péchés étaient tellement grands qu'on ne devait pas l'empêcher de se détruire. Les paroles du Christ sont applicables à ses frères, ainsi qu'à tous ceux qui avancent des opinions similaires. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Zacharie 3, versets 2-3. Qui l'avait recouvert de vêtements sales ? Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui : ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit : vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis : qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Zacharie 3, versets 4 à 7. L'œuvre de Satan est de recouvrir de vêtements souillés le peuple de Dieu qui se repent, qui croit et qui garde ses commandements. Jésus-Christ ordonne qu'on les recouvre de sa justice et de vêtements tissés sur le métier à tisser du ciel. Distingués par des méthodes déshonorantes, que font nos frères S et C ? Si Dieu les avait chargés de faire cela, ils n'auraient pas eu besoin de s'approprier les écrits de Sir White sans l'avoir consulté ni lui avoir parlé. S'ils ont autant confiance en l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés, pourquoi ne l'ont-ils pas conseillé pour voir si ce merveilleux message était en accord avec les instructions qu'elle avait reçues du Seigneur ? Pourquoi n'ont-ils pas eu la sagesse de travailler avec droiture ? Mais leur message est fallacieux, d'un caractère semblable à ceux d'autres hommes qui ont eux aussi prétendu les avoir reçus du Seigneur. Il ne s'agit pas là du brillant éclat d'une lampe allumée depuis l'autel divin. Quand le Seigneur accorde à son peuple sa lumière, c'est de la lumière. Elle n'est pas ténèbres et erreurs, l'éloignant directement de la véritable lumière que le Seigneur a envoyée pour le fortifier, le bénir et lui donner de l'espoir. Ces hommes n'avaient pas le droit de s'approprier les biens que le Seigneur a confiés à cette humble servante pour en tirer profit et les améliorer en les exploitant et en les plaçant dans le cadre de leurs ans noirs, en faisant croire qu'il s'agissait de la voix de Dieu qui, du ciel, poussait le grand cri selon lequel l'Église, son peuple choisi, qui garde ses commandements, est Babylone, et que le peuple devrait sortir du milieu d'elle. Mon œuvre pour sauver les âmes.
Je n'ai aucun message de ce genre à transmettre, mais un message à caractère totalement différent. Mon œuvre est de chercher à sauver des âmes perdues et qui périssent, et de leur enseigner, comme l'a fait Paul qui a dit « Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Acte 20, versets 20 à 21, 26 à 29. Ils prononcent des paroles perverses. À présent, Paul leur présente une autre classe d'individus. Du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que, pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Acte 20, versets 30 à 31. À toutes les époques de l'histoire, des hommes ont cru avoir une œuvre à réaliser pour le Seigneur, mais n'ont montré aucun respect pour ceux que le Seigneur utilisait déjà. Ils n'appliquent pas correctement les Écritures. Ils les déforment pour soutenir leurs propres idées. Quelles que soient les revendications de ceux qui s'éloignent du corps du Christ pour proclamer des théories de leur propre invention, ils sont au service de Satan pour ériger de nouveaux conseils afin de faire dévier les âmes de la vérité présente. La lumière du monde. Prenez garde à ceux qui se présentent avec le grand souci de dénoncer l'Église. Les élus qui se tiennent debout, qui bravent la tempête de l'opposition du monde et qui soutiennent bien haut les commandements divins piétinés pour les exalter comme honorables et saints, sont en effet la lumière du monde. Comment un être humain mortel ose-t-il les juger et appeler l'Église une prostituée, Babylone, un repaire de voleurs, un cage de tout oiseau impur et détestable, un repaire du diable qui enivre les nations du vin de sa fornication, s'alliant avec les rois et les grands de la terre, s'enrichissant par la puissance de son luxe, proclamant que ses péchés sont arrivés jusqu'au ciel et que Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voir Apocalypse 17, versets 15, 14, versets 8 à 10, 18, versets 2 à 4. Est-ce là le message à transmettre aux adventistes du septième jour? Je vous le dis, non. Dieu n'a donné ce message à aucun homme. Que ces hommes humilient leur cœur devant Dieu et qu'avec une véritable contrition, ils se repentent de s'être tenus, même pour un temps, du côté de l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, verset 10. Il semble presque impossible que quelqu'un qui ait fié une véritable expérience dans la foi puisse suggérer que de telles interprétations erronées des Écritures s'appliquent au peuple qui observe les commandements de Dieu. À supposer que ce faux message soit celui que tous doivent écouter en ce moment, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple » Apocalypse 18, verset 4. Où irions-nous donc? Où pourrions-nous trouver la pureté, la bonté et la sainteté où nous serons en sécurité? Où se trouve la bergerie où aucun loup ne peut entrer? Je vous le dis, mes frères, le Seigneur a un corps organisé par lequel il agira. Il peut contenir une vingtaine de Judas, un Pierre impétueux qui, en des circonstances éprouvantes, reniera son Seigneur. Il peut contenir des individus comme Jean, que Jésus aimait, mais dont le zèle détruirait des vies en faisant descendre du feu du ciel pour se venger d'une insulte faite au Christ et à la vérité. Mais le grand maître cherche à donner des leçons utiles pour corriger ces maux existants. Et il fait de même aujourd'hui avec son Église. Il montre les dangers qu'elle court. Il lui présente le message à l'Église de Laodicée. Il lui montre que tout égoïsme, tout orgueil, toute exaltation propre, toute incrédulité et tout préjugé sont dangereux et qu'à moins de s'en repentir, ceux qui alimentent ces choses seront laissés dans les ténèbres, comme l'a été la nation juive. Que chaque âme s'efforce maintenant de répondre à la prière du Christ. Que chaque âme fasse écho à cette prière en esprit, en supplication et en exhortation, afin que tous soient un, comme Jésus était un avec le Père, et qu'elle travaille en ce sens. Au lieu d'employer les armes de guerre parmi nos propres rangs, utilisons-les contre les ennemis de Dieu et de la vérité. De tout notre cœur, faisons l'écho de la prière du Christ. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Jean 17, versets 11-15. Et faisons l'écho de cette prière qu'il offre pour indiquer le processus par lequel ses disciples sont sanctifiés. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. L'Église unie. La porte du cœur doit être ouverte au Saint-Esprit, car c'est lui qui sanctifie, et la vérité en est le moyen. La vérité doit être acceptée telle qu'elle se trouve en Jésus. C'est la seule véritable sanctification. Ta parole est la vérité. Lisons la prière de Jésus pour l'unité. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jean 17, verset 11. La prière du Christ n'était pas seulement pour ceux qui étaient alors ses disciples, mais pour tous ceux qui croiraient en lui, grâce aux paroles de ses disciples, jusqu'à la fin du monde. Jésus était justement sur le point de donner sa vie pour apporter la vie et l'immortalité à la lumière. Au milieu de ses souffrances et du rejet quotidien par les hommes, il regardait à travers les 2000 années de son Église qui existerait dans les derniers jours, avant la fin de l'histoire de la terre. Depuis, le Seigneur a toujours eu une Église, des scènes changeantes de l'histoire jusqu'à présent en 1893. La Bible nous présente une Église modèle. Ses membres doivent être unis les uns aux autres et à Dieu. Quand les croyants sont unis au Christ, la vigne vivante, le résultat est qu'ils sont un avec lui, remplis de compassion, de tendresse et d'amour. Quand quelqu'un s'éloigne du corps organisé du peuple qui garde les commandements de Dieu, qu'il commence à peser l'Église sur sa balance humaine et se met à prononcer des jugements contre ce peuple, alors vous savez que Dieu ne le dirige pas. Il est sur la mauvaise voie. Des hommes et des femmes qui deviennent agités et mal à l'aise se lèvent constamment. Ils désirent mettre en marche de nouveaux artifices pour réaliser quelque chose de prodigieux. Satan attend l'occasion de leur donner quelque chose à faire dans son œuvre. Dieu a confié une tâche à chacun. Il y a dans l'Église des occasions et des privilèges d'aider ceux qui sont au bord de la mort et pour inspirer à l'Église du zèle, mais pas pour la réduire en morceaux. Il existe dans l'Église moult opportunités de suivre les traces de Jésus. Si le cœur est rempli de zèle pour courir vers une sanctification et une sainteté plus profonde, ils travailleront alors, humbles et dévoués. L'Église a besoin du courage et de l'inspiration de ceux qui respirent la véritable atmosphère du ciel, pour revitaliser l'Église, malgré l'ivraie qui pousse parmi les blés. Des collaborateurs de Dieu. Si des hommes bons et humbles font leur devoir justement là où on en a besoin, pour aider ceux qui sont sur le point de mourir, ils seront une grande bénédiction pour l'Église. Il y a dans l'Église des personnes non converties, et si ceux qui désirent montrer leur zèle pour le Seigneur cherchent ces pauvres âmes et travaillent avec patience et persévérance pour les gagner à Jésus, Dieu agira par leur intermédiaire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Non pas pour démolir et détruire, mais pour restaurer. Que vos pieds suivent des pistes droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Hébreux 12, verset 13. Une abondance de travail doit être réalisée dans nos missions locales et dans l'exercice des talents que Dieu nous a donnés, pour une sage amélioration. Par la pratique, nous deviendrons aussi habiles que le commerçant dans ses affaires. En apprenant à sauver des âmes, nous voulons devenir performants pour les bénir. Ceci exige de la prière, un effort fervent et persévérant, et le désir d'agir d'une manière humble. Si l'argent inutilement dépensé dans l'exécution de travaux que Dieu n'a pas demandé aux hommes de réaliser avait été employé avec parcimonie, de manière simple et sûre pour le progrès et l'édification du royaume du Christ en ce monde, au lieu d'aider Satan à attirer le reproche sur le royaume du Seigneur, à revêtir son église de vêtements sales et à pousser ses membres à adopter des positions erronées en usant des reproches et des corrections que Dieu leur avait données pour leur montrer leurs péchés. Quelle grande œuvre aurait pu être bâtie sur la pierre de l'angle ? Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. 1 Corinthiens 3, verset 12. J'avertirai tous les croyants qu'ils doivent apprendre à garder un saint zèle pour eux-mêmes. Autrement, Satan pourrait dérober à Dieu leur cœur et ils glisseraient inconsciemment dans les rangs et l'œuvre du diable sans s'apercevoir qu'ils auront changé de chef pour se trouver sous la puissance perfide d'un tyran. Nous sommes une église qui doit être bien réveillée et qui doit travailler en collaboration avec Dieu parmi ceux qui errent parmi nous. Nous sommes dotés d'armes spirituelles, puissantes pour renverser la forteresse de l'ennemi. Nous ne devons pas lancer nos foudres contre l'église militante du Christ, car Satan fait tout son possible dans ce sens, et vous, qui dites être le reste du peuple de Dieu, feriez bien de ne pas être trouvés en train de l'aider l'ennemi en dénonçant, accusant et condamnant. Essayez de restaurer et non de démolir, de décourager et de détruire. Quelques conseils au peuple de Dieu qui garde les commandements. J'ai reçu votre lettre au début du sabbat. Je devrais vous conseiller de vous inscrire à l'école et non de quitter ce pays, tant que la vérité ne sera pas claire dans votre esprit. J'espère sincèrement que vous assisterez aux cours pendant cette période et que vous apprendrez tout ce que vous pouvez au sujet de ce message de vérité qui doit être prêché au monde. Le Seigneur ne vous a pas donné le message selon lequel il faut appeler l'Église adventiste du septième jour « Babylone » et selon lequel il faut appeler le peuple de Dieu à en sortir. Toutes les raisons que vous pourriez évoquer n'ont pour moi aucun poids, car le Seigneur m'a donné une lumière bien claire qui s'oppose à un tel message. Je ne doute pas votre sincérité, ni de votre honnêteté. J'ai écrit de longues lettres, en plusieurs occasions, à ceux qui accusent les adventistes du septième jour d'être Babylone et de ne pas présenter la vérité. Vous croyez que certaines personnes ont influencé mon esprit. Si c'était le cas, je ne serais pas en mesure qu'on me confie l'œuvre de Dieu. Mais cette question m'a été présentée dans d'autres cas où les personnes ont prétendu avoir des messages semblables pour l'Église adventiste du septième jour, et j'ai reçu ces paroles. Ne les crois pas. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Jérémie 12, verset 6, 23, verset 21. Quelques exemples. La chambre du pasteur A, qui était sur son lit de mort, à l'hôpital de Battle Creek, était remplie de gens intéressés. Beaucoup furent trompés. Cet homme paraissait être inspiré. Mais la lumière qui me fut donnée fut « Cette œuvre n'est pas de Dieu, ne crois pas ce message. » Quelques années plus tard, un homme appelé B, de Red Bull, en Californie, vint me voir pour me présenter son message. Il dit que c'était le grand cri du troisième ange qui devait éclairer le monde de sa gloire. Il croyait que Dieu avait ignoré tous les ouvriers dirigeants et qu'il lui avait confié le message. Je tentais de lui montrer qu'il se trompait. Mais il disait que les adventistes du septième jour étaient Babylone, et, quand nous lui avons fait part de nos raisons et lui avons exposé les choses, qu'il était dans l'erreur, une puissance forte descendit sur lui et lui fit justement pousser un grand cri. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec lui. Son esprit devint déséquilibré et il fallut le faire interner dans un asile de malades mentaux. Monsieur C. défendait et publiait un message concernant le grand cri du troisième ange. Il accusait l'Église de la même manière que vous le faites maintenant. Il disait que les dirigeants de l'Église tomberaient tous à cause de l'exaltation de soi, qu'une autre classe d'hommes humbles s'installerait et qu'ils feraient des choses merveilleuses. Monsieur C. est un homme intelligent, avec une élocution acceptable. Il fit preuve d'abnégation, d'une ferveur et d'un zèle entier et a une apparence de consécration et de dévotion. Mais j'ai reçu de Dieu cette parole.
ne les crois pas, je ne les ai pas envoyés. »
Il disait croire au témoignage. Il affirmait qu'ils étaient véridiques et les employait de la manière que vous les avez employés pour donner force et apparence de vérité à ses prétentions. Je lui ai dit que ce message n'était pas de Dieu, mais qu'il trompait les imprudents. Il n'y avait pas moyen de le convaincre. Si j'ai déjà vu un homme inspiré, c'est bien lui. Mais je lui ai clairement dit que son inspiration venait de Satan et non de Dieu. Son message ne portait pas les références du ciel. Afin de proclamer ce message au monde, il poussa un jeune homme honnête et sincère à croire qu'il était de son devoir de voler la liste de ta review en Herald. Ceci est un délit passible de prison et le jeune homme s'enfuit de Battle Creek. Il n'osa pas y retourner avant un certain temps. Ce maître fanatique avait fixé une date pour la fin du temps de probation et, alors que toutes ses prédictions échouèrent, le jeune homme vit qu'il avait été leurré. Il confessa son péché et est maintenant un membre honorable de l'église de Battle Creek. Seulement 2 ans plus tard, un autre homme, du nom de D, du Connecticut, vint avec un message qu'il appelait une nouvelle lumière concernant le message du troisième ange. À cause de ses duperies, cette famille intelligente se sépara de l'église adventiste du septième jour. Parce que j'avais prononcé un ferme témoignage contre cette soi-disant nouvelle lumière, à dans le Connecticut où il vivait, il s'opposa à mon œuvre et au témoignage. Le père des enfants D assista au congrès et aux cours bibliques pour les pasteurs qui eurent lieu à Battle Creek, mais il se maintint en marge et n'entra pas en harmonie avec l'esprit des réunions. Il retourna chez lui et commença à contaminer la petite église D. Si je n'étais pas intervenu personnellement à cet endroit, en rejetant ainsi la vérité et la position des adventistes du septième jour, et de Madame White en particulier, ils auraient peut-être détruit toute l'église. À cette même époque, la sœur E arriva de Washington D.C., affirmant être entièrement sanctifiée et avoir le don de guérison. Cet esprit rendit beaucoup de gens perplexes. Le même esprit d'accusation était en eux, c'est-à-dire que l'église était complètement dans l'erreur et que Dieu appelait les gens à en sortir pour faire des miracles. Un grand nombre de nos membres à Battle Creek partirent. Dans la nuit, l'Esprit de Dieu me poussa à écrire à notre peuple de Battle Creek. Le message aux Laodicéens. Dieu dirige un peuple. Il a élu des personnes, une église sur la terre dont il a fait des membres les dépositaires de sa loi. Il leur a confié un héritage sacré et une vérité étant mêle à transmettre au monde. Il désire les reprendre et les corriger. Le message aux Laodicéens est valable pour les adventistes du septième jour qui ont reçu une grande lumière, mais qui n'ont pas marché dans la lumière. Il s'agit de ceux qui ont fait une grande profession de foi, mais qui n'ont pas suivi le même rythme que leur guide. À moins qu'ils ne se repentent, ceux-là seront vomis de sa bouche. Le message qui déclare que l'église adventiste du septième jour est Babylone et qui demande au peuple de Dieu de sortir du milieu d'elle ne vient d'aucun messager céleste, ni d'aucun agent humain inspiré par l'Esprit de Dieu. Le témoin fidèle dit « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 3, versets 18 à 21. Je reprends et je corrige. Jésus vient pour donner aux membres individuels de l'Église les plus riches bénédictions, s'ils veulent lui ouvrir la porte. Pas une seule fois, il les appelle Babylone, ni leur demande de sortir d'elle. Mais il dit « Je reprends et je corrige tout ce que j'aime. » Apocalypse 3, verset 19. Par des messages de réprimande et d'avertissement. Je n'ignore pas ces reproches. J'ai donné des avertissements parce que l'Esprit du Seigneur m'a poussé à le faire, et j'ai exprimé des réprimandes parce que le Seigneur m'a donné des paroles de reproche. Je n'ai pas refusé de transmettre tous les conseils que Dieu m'a donnés pour l'Église. Dans la crainte et l'amour de Dieu, je dirais que je sais que le Seigneur a des pensées d'amour et de miséricorde pour les rétablir et les guérir de toute leur rébellion. Il a une œuvre à confier à son Église.
Il ne faut pas dire d'elle qu'elle est Babylone, mais qu'elle est comme le sel de la terre, la lumière du monde. Ses membres doivent être les messagers vivants pour proclamer un message vivant en ces derniers jours. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Apocalypse 18, versets 1 à 8, LSG. Tout le chapitre démontre que la Babylone qui est tombée est constituée des églises qui ne recevront pas le message d'avertissement que le Seigneur a donné dans les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Ils auront refusé la vérité et accepté un mensonge. Ils auront rejeté les messages de vérité. Voir 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Le message du chapitre 18 d'Apocalypse est clair et concret. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe, Apocalypse 18, verset 3, LSG. Celui qui lit ce chapitre n'a pas à être trompé. Comme Satan exulterait s'il pouvait publier un message selon lequel l'unique peuple que Dieu s'est choisi pour en faire le dépositaire de sa loi est celui à qui s'applique ce message. Le vin de Babylone est l'exaltation du faux et fallacieux sabbat au-dessus du sabbat que le Seigneur Éthémel a béni et sanctifié pour l'homme, ainsi que l'immortalité de l'âme. Ces hérésies apparentées et le rejet de la vérité transformeront l'Église en Babylone. Les rois, les marchands, les gouverneurs et les maîtres religieux sont tous dans une harmonie corrompue. L'Église ne doit pas se désagréger. Je le répète, le Seigneur n'a parlé au moyen d'aucun messager qui appelle Babylone l'Église qui garde les commandements de Dieu. Il est vrai qu'on trouve de l'ivraie parmi les blés. Mais le Christ a dit qu'il enverrait ses anges pour récolter d'abord l'ivraie et en faire des gerbes qui iront au feu, mais qu'il rassemblera le blé dans la grange. Je sais que le Seigneur aime son Église. Elle ne doit pas se désorganiser, ni se désagréger comme des atomes indépendants. Il n'y a en cela pas le moindre sens. On ne trouve pas la moindre preuve que ceci arrivera. Ceux qui obéiront à ce faux message et qui s'efforceront de contaminer les autres seront trompés et prêts à recevoir des supercheries encore plus grandes, et ils seront réduits à néant. On trouve chez certains membres de l'Église de l'orgueil, de la suffisance, de l'incrédulité enracinée et un refus d'abandonner leurs idées, même si s'accumulent les évidences montrant que le message à Laodicée s'applique à l'Église. Mais ceci n'effacera pas l'Église au point de disparaître. Que l'ivraie et le blé continuent à pousser ensemble jusqu'à la moisson. Ce seront alors les anges qui accompliront le travail de séparation. J'avertis l'Église adventiste du septième jour de faire attention à la manière dont elle reçoit toute nouvelle notion et ceux qui déclarent posséder une grande lumière. Le caractère de leurs œuvres semble être d'accuser et de détruire. Mon frère, je vous dirai, prenez garde. Ne faites pas un pas de plus là où vous vous êtes engagé. Marchez dans la lumière, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Jean 12, verset 35. Vous vous plaignez qu'on vous ait traité froidement à Battle Creek ? Êtes-vous allé à ceux qui sont spirituels avec un esprit humble en disant « Pourriez-vous sonder les Écritures avec moi ? Pourrions-nous prier à ce sujet ? Je n'ai pas de lumière et la désire car l'erreur ne sanctifie jamais l'âme. Devriez-vous être surpris de ce qu'il ne vous ait pas accordé toute la confiance que vous pensiez recevoir après l'expérience qu'ils ont vécue ? Les paroles de Jésus ne devraient-elles pas avoir de poids ? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15. De plus en plus, on entendra « Le Christ est ici » ou « Il est là » Matthieu 24, 23, Marc 13, verset 21. Que les croyants écoutent la voix de l'ange qui a dit à l'Église « Regroupez-vous étroitement ». L'union fait votre force. Aimez-vous comme des frères, soyez compatissants et courtois. Dieu a une église, et le Christ a déclaré « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. » Matthieu 16, verset 18. Les messagers que le Seigneur porte le sceau du ciel. « J'ai de l'affection pour vous, mais venez à la lumière, je vous en supplie. » Le Saint-Esprit agira avec puissance. Nous avons la certitude qu'en cette époque du monde, l'Esprit-Saint agira avec une immense puissance, à moins que par notre incrédulité, nous limitions nos bénédictions et qu'ainsi, nous perdions les bienfaits que nous pourrions obtenir. Dans le passé, les saints hommes ont parlé, alors qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Dans les temps anciens, les prophètes ont cherché à comprendre ce que l'Esprit de Dieu qui était en eux voulait dire. L'Esprit n'avait alors pas été donné en puissance parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est à partir du jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit devait être déversé sur les fils et les filles, sur les serviteurs et les servantes. Sur chaque colline, dans chaque pays, chaque plaine et chaque vallée, d'humbles serviteurs du Seigneur doivent être appelés. L'influence divine et sacrée du Saint-Esprit agissant dans notre monde doit être comme des signes et des prodiges, car le peuple de Dieu est un peuple particulier, une nation sainte, qui brille au milieu de la décadence morale, comme des pierres vivantes de l'édifice de Dieu. Les plus faibles et les plus fragiles, s'ils exercent leur foi en Dieu et améliorent les talents qui leur ont été confiés, seront élevés, raffinés, et rendu parfait dans leur caractère, sous l'action du Saint-Esprit. Humbles et contrits, ils se soumettront au modelage et au façonnage de l'Esprit, et ils sauront en quoi consiste son étemelle plénitude. Le besoin d'une foi plus grande. Nous devons avoir plus de foi. Le Seigneur désire que sa volonté soit faite dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Mais beaucoup de ceux qui pourraient œuvrer avec Dieu ne le feront jamais, car ils s'accrochent aux imperfections de leur caractère. L'un caresse une faute, un autre profite de l'hérédité, cultive ses défauts et travaille toute sa vie à s'élever et se glorifier jusqu'à finalement se sentir rempli, non pas de l'Esprit-Saint, mais de lui-même. Le grand jour du Seigneur est sur nous, et Dieu fait appel à des messagers que le Saint-Esprit contrôlera, mais qui ne voudront pas contrôler l'Esprit. De tels messagers seront guidés par lui, modelés, raffinés et embellis dans la justice, car ils seront disposés à être façonnés. Mais ceux qui se satisfont d'amener avec eux tout leur égoïsme, leur tendance à la critique, à la suspicion, à la méfiance et à la dispute, seront tellement trompés qu'ils ne seront pas conscients de leur petitesse. Ils sont remplis de leurs propres œuvres. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que veut dire être crucifié avec le Christ. S'humilier est pour eux quelque chose d'étrange. Avant de pouvoir servir Dieu de manière acceptable, leur moi doit mourir. Les paroles du Christ. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, verset 7. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Doivent demeurer en eux. Nicodème, à qui ces paroles furent adressées, était un maître d'Israël, un membre du Sanhédrin et un conseiller instruit. Pourtant, quand le Christ lui parla de la nouvelle naissance, il dit « Comment cela peut-il se faire ?
Jean 3, verset 9. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela ?» Verset 10. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, versets 11 à 16. Pourquoi n'avons-nous pas plus de la foi qui agit par amour et purifie l'âme ? Une œuvre doit être réalisée dans chacune de nos institutions. Une véritable conversion est nécessaire, une conversion du cœur, de l'esprit, de l'âme et du corps. Le moi devrait mourir chaque jour. Le grand apôtre a dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chamelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. » 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Dans ce travail, chacun doit s'impliquer de tout son être. Une expérience religieuse personnelle est nécessaire dans chaque église. Pourquoi ? Parce que ceux qui ne sont pas sous l'action du Saint-Esprit ne pourront se tenir debout au milieu des dangers des derniers jours. Le besoin d'être converti. Il nous faut une conversion authentique. La parole de Dieu déclare « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » 2 Corinthiens 10, versets 17-18. Le succès du ministère d'Élie n'était pas dû à quelques qualités qu'il aurait héritées, mais à sa soumission à l'Esprit-Saint qui lui fut donné, comme il sera accordé à tous ceux qui pratiquent une foi vivante en Dieu. Dans son imperfection, l'homme a le privilège de se lier à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Demandons-nous franchement et sérieusement. Nous sommes-nous humiliés devant Dieu pour que le Saint-Esprit agisse à travers nous avec une puissance transformatrice ? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le privilège que son Esprit œuvre en nous. Quand le moi est crucifié, le Saint-Esprit prend ceux qui ont le cœur brisé et fait d'eux des vases d'honneur. Entre ses mains, ils sont comme l'argile entre les mains du potier. Jésus-Christ fera que de tels hommes et de telles femmes soient supérieurs mentalement, physiquement et moralement. Les grâces de l'Esprit donneront de la solidité au caractère. Ils exerceront une influence pour le bien, car Jésus demeure dans leur âme. Tant que cette puissance qui convertit n'entrera pas dans nos églises, tant que ne se produira pas le réveil de l'Esprit de Dieu, toute profession de foi des membres d'Église ne fera jamais d'eux des chrétiens. Il y a à Sion des pécheurs qui ont besoin de se repentir de péchés qu'ils chérissent en eux comme un précieux trésor. Tant que ces péchés ne sont pas reconnus et chassés de l'âme, tant que chaque défaut, chaque trait de caractère déplaisant n'est pas transformé par l'influence de l'Esprit, Dieu ne peut se manifester en puissance. Il y a plus d'espoir pour le pécheur avéré que pour celui qui prétend être juste mais qui n'est pas pur, saint et immaculé. Recevoir pleinement le Saint-Esprit. On m'a indiqué de porter un message à ceux qui servent en présentant ouvertement la parole de Dieu aux autres. Vous devez vous convertir. C'est sans aucun doute ce qu'il vous faut. L'onction spirituelle du Seigneur ne descendra jamais sur des hommes et des femmes suffisants. Beaucoup de ceux qui sont au service de Dieu et qui proclament la vérité par écrit et de vive voix ne sont pas mus par le Saint-Esprit. Le moi a chez eux atteint des proportions importantes. Tant que l'âme n'est pas vidée du moi et que l'Esprit Saint n'a pas pris possession d'elle, vous ne serez pas prêt pour le retour de Jésus. Vous serez infailliblement pesé sur les balances d'or du sanctuaire céleste et vous serez trouvé léger. La promesse de Dieu est pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui sont au loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Nous pouvons réclamer cette promesse pour nous-mêmes et recevoir pleinement le Saint-Esprit. Ne serons-nous pas, nous qui prêchons la parole, revêtus de la puissance divine? Ne serons-nous pas vraiment ses messagers? Qui est prêt à se prendre en main? Qui est prêt à mettre le doigt sur ces idoles de péché chéris et permettra à Jésus de purifier le temple en chassant les acheteurs et les vendeurs? Qui est prêt à permettre à Jésus d'entrer dans son âme et de la purifier de tout ce qui ternit et corrompt? La norme est « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait » Matthieu 5, verset 48. Dieu appelle les hommes et les femmes à vider leur cœur du « moi ». Alors l'Esprit pourra y trouver une entrée dégagée. Cessez d'essayer de faire cette œuvre vous-même. Demandez à Dieu d'œuvrer en vous et par vous, jusqu'à ce que les paroles de l'apôtre deviennent vôtres. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. L'être tout entier doit avoir faim et soif de justice. Le désir de l'âme doit être de se rapprocher de Dieu, d'être pétri jusqu'à la parfaite conformité à sa volonté. Alors, le cœur dur et froid sera attendri par la grâce et l'amour de Dieu qui se manifeste avec puissance. Dieu sera glorifié par les instruments humains. Le « moi » est le grand obstacle à ce travail. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous » Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jacques 4, 1 à 10. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, chamelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Jacques 3, versets 14 à 18. Chaque membre d'Église devrait apprendre ses leçons. Il y a le besoin réel d'un examen de conscience minutieux à la lumière de la parole de Dieu pour que nous réalisions le travail essentiel qui doit être accompli. Après avoir mis votre foi en la parole de Dieu, ne dépendez pas de vos sentiments pour avoir la preuve que Dieu vous accepte. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Si vous avez rempli les conditions, croyez en Dieu, que vous sentiez ou non une différence. Jésus a déclaré « J'agis comme le Père me l'a commandé. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jean 14, verset 31, 15, verset 10.
que tous ceux qui comprennent les revendications immuables de la loi de Dieu fassent preuve d'une obéissance implicite à chaque exigence donnée dans la parole. Les convictions du Saint-Esprit sont des avertissements qu'il est dangereux de négliger. Les deux maisons. Le Christ a déclaré que ceux qui écoutent ses paroles sont comme un orme qui a construit sa maison sur le roc. Ni la tempête, ni les inondations n'ont pu l'emporter. Ceux qui ne mettent pas les paroles du Christ en pratique sont comme l'homme qui a construit sa maison sur le sable. L'orage et la tempête se sont abattus sur elle. Elle s'est écroulée et sa destruction a été totale. On voit en la maison en ruine le résultat du fait de professer observer la loi divine et, malgré tout, cheminer à contre-courant des principes de cette loi. Ceux qui font profession d'obéissance, alors qu'ils refusent d'obéir, ne peuvent supporter la tempête de la tentation. Un acte de désobéissance affaiblit le pouvoir de voir le caractère pécheur de l'acte suivant. Une petite indifférence à un « ainsi par le pêle-mêle » suffit à retenir la bénédiction promise du Saint-Esprit. À cause de la désobéissance, la lumière qui alors avait été si précieuse devient obscure. Satan prend possession de l'esprit et de Pam, et Dieu est très déshonoré. Si vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays, mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par l'épée. Ésaïe 1, versets 19-20. Ces paroles sont véridiques. Une obéissance à la lettre est requise, et ceux qui disent qu'il est impossible de vivre une vie parfaite imputent à Dieu l'injustice et l'erreur. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. La négligence de satisfaire la faim de Pam la laisse faible et dépourvue de force, incapable de faire la volonté de Dieu. La vie d'une telle personne est comme celle du figuier stérile, dépourvue de fruits. Ne dépendez d'aucun être humain pour recevoir des paroles de réconfort. Cherchez le Seigneur avec plus de ferveur, tout en lisant ses riches promesses et en les appliquant. Alors, vous ne serez plus consommateur, mais pourvoyeur. Le Sauveur qui demeure en nous se révèle toujours dans nos paroles. Le Saint-Esprit n'habite pas dans le cœur de celui qui est contrarié si les autres n'adhèrent pas à ses idées et à ses plans qui, pour lui, sont la somme et la substance de tout ce qui est désirable. Des lèvres d'un tel homme sortent des remarques cinglantes qui attristent et éloignent le Saint-Esprit et qui produisent des attributs plutôt sataniques que divins. Le Seigneur voudrait que ceux qui sont en lien avec son œuvre parlent à tout moment avec la mansuétude du Christ. Si vous faites l'objet de provocations, ne vous impatientez pas. Manifestez la douceur dont le Christ a donné l'exemple dans sa vie. Jésus a pris notre nature pour nous donner un exemple, montrant à ceux qui le reçoivent les fruits qu'ils doivent produire. Le Seigneur exige que ceux qui sont à son service démontrent par leurs paroles et leurs actes qu'ils sont des enfants de Dieu. Montrer de par notre vie quotidienne que nous sommes des membres de la famille royale, des enfants du roi céleste, a plus de valeur à ses yeux que toute éducation, toute sagesse ou tout grand exploit. Toute autre manière d'agir est malhonnête envers sa famille et séparera indubitablement d'elle. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, plus il est éprouvé et examiné, plus clairement il prouvera qu'il est un véritable représentant du Christ en parole, en esprit et en action. Jésus a déclaré « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. » Jean 14, verset 12. Quelle est la promesse faite à chaque vrai croyant ? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Ne vaudrait-il pas mieux, mes frères et sœurs, que nous nous en prenions à nous-mêmes pour notre manque de ressemblance au Christ ? Il dit « C'est vous qui êtes mes témoins. » Ésaïe 43, verset 10. Quel genre de témoins de la vérité et de la justice sommes-nous ? Luttons-nous avec toutes les facultés que Dieu nous a données pour atteindre la mesure de la stature d'homme et de femme en Christ ? Recherchons-nous sa plénitude, nous efforçant de toujours aller plus haut, essayant d'atteindre la perfection de son caractère ? Quand les serviteurs de Dieu arriveront à ce point, ils seront scellés sur leur front. L'ange qui tient les registres déclarera « C'en est fait ». ceux qui lui appartiennent par création et par rédemption, auront en lui la plénitude. Il n'y a pas de vie sans croissance.
Dans le monde naturel, il n'y a pas de la vie qui ne grandisse ni ne produise du fruit. Et, dans le monde spirituel, il n'y a pas de vie sans croissance en grâce. L'élan spirituel n'est pas la croissance. L'élan est un sentiment, et dépendre des sentiments est être aussi changeant que les circonstances. Le soi-disant chrétien qui ne tire pas sa vie de celle du Christ n'est pas un chrétien qui met la parole en pratique. C'est un membre paralysé, relié au corps uniquement de nom. En des temps capricieux, on verra des mouvements convulsifs, mais sans activité permanente. Que personne ne pense que la grâce de Jésus inspire ses activités ponctuelles et impulsives. Beaucoup sont sujets à des impressions qui ne sont pas fiables. Beaucoup ont ce qu'ils pensent être de bonnes impressions, une merveilleuse exaltation des sentiments, mais leur vie ne représente pas un Christ permanent. Ils ne puisent pas la vie à la source de toute vie. Ils ne boivent pas l'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. La grâce de Dieu est l'eau vive que nous devons boire. Elle presse tout l'être vers la vie spirituelle, la vie du Fils de Dieu. La religion personnelle signifie une parfaite conformité à la vie du Christ. Quand nous possédons cette religion, nous devons faire preuve d'une croissance spirituelle retentissante parce que nous prenons part à la nature divine, ayant fui la corruption qui se trouve dans la vigne du Seigneur. Nous devons collaborer avec Dieu, sinon notre lutte pour la victoire sera vouée à l'échec et notre influence irréligieuse causera la perte d'autres âmes. Aucune âme ne se perd sans en entraîner d'autres avec elle. Que celui qui prononce le nom du Christ se détourne de toute iniquité, afin que Jésus puisse ne pas avoir honte de lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les membres d'Église à se réveiller et à faire leur autocritique. Prenez conscience que l'importance de ce travail est telle que personne ne peut se permettre de critiquer les autres. Révélez un Christ qui demeure en vous. Vous comprendrez alors ce que signifie être un véritable missionnaire. Vous apporterez dans votre travail une intensité semblable à celle de Jésus-Christ, et de nombreuses âmes seront sauvées grâce à vos ferventes prières et à vos efforts attentionnés.